Chapitre 20. Joie du papa et suite funeste. Il était 9 heures du matin lorsque je fus heureusement délivré. Une garde sûre, un accoucheur, Madame de Servolles, étaient près de mon lit et, depuis 2 jours, les approches de mon accouchement nous avaient tous tellement occupés que mon ami n'avait pu se livrer à ses précautions ordinaires. J'étais donc mère, Jeannette, et déjà je tenais dans mes bras, en le couvrant de baisers, mon enfant, qui m'offrait la première idée de son sexe et que j'appelais mon fils, mon cher fils. La porte s'ouvre et nous voyons paraître qui, grand Dieu, Saint-Ange lui-même, qui reste frappé d'étonnement. « Que vois-je » s'écrie-t-il. Et soudain, je tombe sur mon lit sans connaissance. Madame de Servolles, outrée de la hardiesse du jeune homme et désespérée de son imprudence qui va l'éclairer sur ma faute, lui fait les plus vifs reproches de sa brusque visite. Saint-Ange interdit n'a pas la force de lui répondre. Mon amie vole à mon secours, elle me prodigue tous ses soins et je revois enfin la lumière pour la détester. Quelle honte en effet pour moi! Quelle honte, Jeannette! Je m'écrie « Monsieur, monsieur !» Il veut sortir. Ah, restez, restez! Ne m'accablez point de votre mépris, ne m'accusez point sans m'entendre. Cet enfant, il est vrai, il est le mien, mais je suis innocente, je le suis, j'ignore comment. Oh, mon Dieu, fais éclater mon innocence! Voilà donc cet obstacle, mademoiselle, répond Saint-Ange, pâle, balbutiante avec peine. C'est donc là ce mystère impénétrable. Ah, femme perfide, je l'aurais cru la vertu sur la terre. Elle l'est toujours, monsieur, interrompit mon amie. Elle-même, elle n'a point de secret pour moi, et ce qui me confond, c'est qu'elle m'a toujours juré qu'elle n'avait connu personne. Elle est même là-dessus d'une naïveté. Mais quel mal vous lui faites dans un moment pareil? Voyez ses larmes, entendez ses sanglots. Je m'écrie, il me croit coupable. « Je l'ai toujours dit, interrompt Madame Servolles, il faut que quelque scélérat, abusant de son sommeil... »« De son sommeil ? Que dites-vous ? » reprend Saint-Ange comme frappé d'un trait de lumière. « Ah, madame, daignez m'éclaircir, combien de grossesses ? Eh, monsieur, 9 mois, cela se demande-t-il ? 9 mois, il y a 9 mois juste. Oui, oui, c'est la vertu même, il n'est pas possible qu'un autre... » C'est moi! Ah, mon épouse! Ah, mon fils! Saint-Ange se jette sur mon lit, il saisit l'enfant, le couvre de baisers. Puis, se précipitant à genoux, il cherche ma main pour en couvrir son front, courbé sous le poids du remords. Madame de Servolles, tous les assistants et moi-même, nous restons interdits des cris de cet insensé, et personne ne sait ce qu'il veut dire. Il nous éclaire enfin. « Vous me regardez tous, s'écrie-t-il, et vous ne croyez pas que c'est moi qui suis ce scélérat, ce suborneur ? Saint-Brice, Saint-Brice, rappelle-toi cette nuit, cette dernière nuit que tu passas chez Madame de Linval, chez elle, dans son appartement. Pour se venger, l'infâme avait engourdi tes sens par une liqueur soporifique. » Égaré par l'amour, par d'autres passions que je n'ose rappeler, je trouvais ta porte ouverte, tu dormais du sommeil des anges, et j'osais te déshonorer. Au lieu d'accabler Saint-Ange de mes reproches, il me sembla qu'un baume consolateur venait rafraîchir mon sang. Le calme rentra dans mon âme, et je m'écriai « Eh bien, mon ami, avais-je tort? Suis-je encore coupable à vos yeux ?» Madame de Servolles ne peut revenir de son étonnement. « Quoi, jeune homme ? » dit-elle à Saint-Ange. « C'est vous, vous qui avez pu outrager à ce point l'honneur et la vertu ? Elle avait donc raison, cette chère enfant, en me jurant qu'elle ignorait. Mais quel bonheur, tout est réparé. Saint-Ange, voilà votre femme et votre fils, et nous qui rougissions de lui avouer un état dont il était l'auteur. » Rassure-toi, mon ami, ouvre tes bras, Saint-Ange, tu as recouvré tous tes droits à son estime. Oh, que ne puis-je mériter la sienne ! Reprend Saint-Ange. Moi, moi, élevé dans des mœurs, dans des principes, me dégrader à ce point ? Oh, quel torrent que le vice ! Madame, obtenez mon pardon. Saint-Ange, répliquai-je d'une voix faible, vous m'avez confondu avec les plus viles créatures, vous avez servi la cruauté d'un monstre à qui je n'avais jamais fait de mal, vous m'avez causé bien des maux. Mais je les oublie, je pardonne tout, puisque vous êtes le père de mon enfant, et si vous me jurez surtout de ne jamais vous écarter des devoirs que vous impose ce titre sacré. » Saint-Ange saisit ma main, l'inonde des larmes du repentir, et bientôt nous nous livrons tous à l'ivresse dans laquelle l'aveu du coupable et ce fortuné moment devaient nous plonger. Quel heureux hasard avait guidé Saint-Ange à Rémival, ce jour-là, précisément à cette heure. Ennuyé de ma longue absence, s'apercevant bien que Madame de Servolles l'éloignait de sa maison de campagne, il s'était décidé à s'y rendre secrètement et, au moyen d'un domestique qui lui avait confié la clé d'une petite porte de jardin, il était parvenu, sans obstacle, jusqu'à mon appartement où le tableau le moins attendu venait de faire son bonheur, après avoir excité sa douleur et son ressentiment. Saint-Ange passa la journée à Rémival. Il me jura 100 fois que je serais son épouse, quelques obstacles qu'on apportât à son bonheur. Ce mot me fit frémir. Je vis clairement que Saint-Ange craignait, de la part de son oncle, une opposition dont il me cachait le motif. Je le pressai de s'expliquer. Il détourna les yeux, versa quelques larmes et il repartit pour Calais où sa longue absence avait sans doute inquiété le vieux commandeur. Je passai un mois entier encore à Rémival où Saint-Ange vint me voir presque tous les jours. Mon père lui-même y vint aussi, accompagné de ses 2 vieux amis. Madame de Servolles leur dit que depuis mon séjour dans cette campagne, je n'avais pas cessé d'être alité. Mon père parut sensible à mon indisposition, mais il ne se douta de rien. Pour Saint-Ange, il devint triste, soucieux, et nous nous aperçûmes qu'un fond de chagrin altérait singulièrement sa santé. Ce fut en vain que nous le pressâmes de verser dans notre sein ses secrètes inquiétudes. Il s'obstina à garder un silence cruel, toujours en me jurant qu'il m'obtiendrait de son oncle inhumain, inflexible, ou qu'il perdrait la vie. Nous avions mis mon petit Charles chez une nourrice dont nous connaissions la discrétion, la fidélité et qui demeurait au bout du village même de Rémival. Il y avait 1 mois qu'il était dans cette maison sûre, lorsqu'un jour, cette femme entra chez Madame de Servolles en versant un torrent de larmes. « Madame, me dit-elle en sanglotant, oh, madame, que je suis coupable! Non, vous ne me le pardonnerez jamais! Qu'avez-vous, Hélène ? On me l'a pris, madame, on me l'a enlevé. Qui ? Je ne sais, madame, qui s'est permis pendant mon absence. Ciel, expliquez-vous, que vous a-t-on pris ? Eh, mon Dieu, madame, mon nourrisson, le petit Charles. Mon fils, on vous a enlevé mon fils, malheureuse. Accablez-moi, madame, je le mérite pour une pareille négligence, mais pouvais-je me douter ? Pouvais-je prévoir ? Je jette des cris lugubres, Madame de Servolles, non moins émue mais plus réfléchie, me calme, interroge cette femme. « Remettez-vous, lui dit-elle, et racontez-nous au moins comment cela s'est passé. »« J'étais sortie, madame, répond Hélène. J'étais dehors pour un moment. Ma petite nièce, un enfant de 10 ans, était restée auprès du petit Charles. » Un monsieur entre, me demande, caresse le petit, l'embrasse et dit à ma jeune nièce qu'il va me la porter chez la voisine Vitry où je le demande. Il remet une lettre à ma nièce, sort avec le petit dans ses bras, monte dans une chaise de poste qui s'éloigne aux yeux de la jeune fille étonnée. Voilà, madame, l'exacte vérité. Vous jugez de ma surprise et de ma douleur en rentrant chez moi. Et cette lettre, Hélène, l'avez-vous ? « La voilà, c'est à madame qu'elle est adressée. »« À moi ?» Madame de Servolles prend la lettre, qui, en effet, porte son nom sur la suscription, et nous reconnaissons toutes deux l'écriture de Saint-Ange. Voici ce qu'il mandait à mon ami. « Madame, le malheur qui s'est attaché à mon berceau dès ma naissance vient d'épuiser ses derniers traits sur moi. » Un obstacle invincible me sépare à jamais de celle que j'aime, que j'adorerai jusqu'à la mort. Un oncle intraitable, à qui j'ai tout dit, m'entraîne, m'arrache des lieux où j'ai connu l'amour et la paternité. La sévérité, dirais-je l'honneur, oui, l'honneur même, me prescrivent d'autres nœuds que j'aborde, mais auxquels je ne puis me soustraire. Il m'a été impossible d'annoncer cette fatale nouvelle à Mademoiselle de Saint-Brice. J'aurais perdu la vie en voyant sa douleur. Il m'a donc fallu m'éloigner sans la voir. Mais je suis père, et du moins, si je lui dérobe son enfant, si je la prive de ce bien précieux, le seul qui puisse me consoler loin d'elle, c'est dans l'espoir de le lui présenter un jour, en la suppliant d'accepter la main de son père. Amie rare et précieuse, daignez la consoler, daignez implorer mon pardon pour le larcin que j'ose lui faire. Assurez-la du bonheur et de tous les soins que cette faible créature doit attendre de celui qui lui donna le jour, et jurez-lui que, si mon secret est d'une nature à ne pouvoir être relevé encore, un jour viendra où elle saura tout et pardonnera tout, j'ose le croire, en faveur des motifs qui me forcent au silence. Adieu, madame. C'est sur vous que je compte pour me donner de temps en temps des nouvelles de celle que jamais je ne cesserai d'adorer. Point de signature, Jeannette, et il partait pour toujours avec mon enfant. Juge de ma situation, ma pauvre Jeannette. Une fièvre ardente vint consumer mon sang. Mon ami, effrayé de mon état, en prévint mon père, qui vint à Rémival, accompagné de Monsieur de Servolle. Ils nous apprirent que, depuis quelques jours, le vieux commandeur de Mellery, qui les boudait tous deux, sans leur en dire les motifs, les avait quittés un beau matin, ainsi que son neveu, sans les prévenir de leur départ, sans même les charger de faire leurs adieux aux dames. Monsieur de Servolle était furieux de cette conduite, à laquelle il ne comprenait rien, et mon père l'interpréta en disant qu'il avait toujours regardé le commandeur comme un original. Mon père me témoigna le plus tendre intérêt, et, grâce aux soins obligeants de mes amis, je me rétablis assez promptement. Mon père alors me déclara qu'il était dans l'intention de continuer ses voyages, peu curieuse du coin de terre qu'il me fallait habiter désormais. « Tu sens bien, Jeannette, que je n'oubliais pas de remercier ma tendre, ma généreuse amie, qui me promit d'entretenir une correspondance suivie avec moi et de me donner des nouvelles de Saint-Ange si elle parvenait à en découvrir. » Nous fûmes de là visités, toujours sous le même nom supposé, et nous étions en Bretagne lorsque nous apprîmes la mort de Madame de Servolle que celle de son époux suivit de près. Une maladie épidémique qui régnait alors à Calais me privait de deux amis, surtout de la seule femme de qui je puisse attendre des nouvelles de Saint-Ange et de mon fils. Que de coups, Jeannette, que de malheurs accumulés! Tu nous apprends notre ruine, mon père tombe malade, il se rétablit, nous revenons à Meudon. J'y perds le meilleur des pères et tu connais la suite de mes infortunes. Accablé de chagrin de tous les genres, je n'ai pu te faire part alors de ma secrète aventure avec Saint-Ange, et la honte, le regret, m'auraient engagé à te la laisser toujours ignorer, si le hasard n'eût pas envoyé ici, hier soir, Saint-Ange lui-même, qui, sans doute, ignore ce que je suis devenu, et ne se doute guère que son amante et cette pauvre Descours, qu'il est venu demander, obligé de travailler pour exister. » Il paraît, par la lettre qu'il a égarée ici, qu'il m'aime toujours et qu'il est encore libre de sa main. Ah, Jeannette, si je pouvais le découvrir, m'offrir à ses yeux. Mais que dis-je, Saint-Ange, pourrait-il donner sa main à une femme sans fortune, sans nom, sans état? Ah, Jeannette !»